Les roses de Pâques de Frank Fliman. Voici plusieurs années, j'effectuais un long voyage que je menais à la façon d'une aventure. J'étais parti sans adresse et donc sans obligation ni prétexte vers des destinations qui m'étaient encore inconnues et dont je n'aurais certes jamais appris l'existence si le hasard et une espèce de fatalité n'eussent contribué à m'y conduire. Le temps, depuis, a fait son œuvre. Je n'ai pas conservé la mémoire des noms, ni celle des visages des gens que j'y rencontrais. En revanche, je me souviens fort bien d'une nuit que je passais dans une auberge située près de la côte, dans laquelle je m'étais établi quelques jours plus tôt et où une histoire très étrange me fut contée. Des habitués de l'auberge, au nombre de quatre, qui arrivaient dîner chaque soir à la même heure, selon un rituel que je remarquais, s'étaient réunis dans un coin de la salle qui servait à la fois de hall d'accueil et de restaurant. J'étais alors le seul étranger qui errait dans le pays, et ma présence assurément les intriguait et dérangeait leurs habitudes. Tout en discutant et en mangeant, ils se retournaient parfois sur moi et m'adressaient un regard plein d'étonnement et de défiance. Ils parlaient bas, comme s'ils craignaient que je les entende, et, aussi près d'eux que je pusse me placer, je ne parvenais jamais à saisir le sens de leurs paroles. Et c'est peut-être à la réflexion autant par défi que par goût, car je n'y avais plus vraiment affaire, que je restais à l'auberge, remettant chaque jour mon départ pour le lendemain, et espérant toujours apprendre ce que ces hommes se disaient. Or, ils arrivèrent un soir, chacun muni d'un livre sous le bras, qu'ils déposèrent sur la table, qui semblait leur être, par un accord tacite réservé, car je n'y vis jamais personne d'autre s'y asseoir. Ils passèrent d'abord commande du menu, et ce n'est qu'ensuite qu'ils ouvrirent les volumes qu'ils avaient apportés. Ils passèrent plusieurs minutes à se les échanger, à les feuilleter d'une manière vive et détaillée, en poussant des soupirs de satisfaction ou d'étonnement. Ils s'en désignaient mutuellement des passages, sans que jamais le service, qui était exécuté par une femme d'âge mûr, ne vînt à les troubler. Cependant, ils s'animaient au fur et à mesure du repas, et, sans qu'ils y prissent garde, les quatre hommes haussaient graduellement le ton de leur voix, en sorte que, sans l'avoir même réellement cherché, je me trouvais bientôt intéressé à leur conversation. L'un des convives arrêta soudain les trois autres, et, prenant un accent plein d'emphase, s'appliqua à lire les vers d'un poète. J'écoutais ceux-ci avec ravissement, les jugeant remplis d'une grâce subtile, mêlée de fièvre, quand le lecteur attira l'attention sur les strophes d'un sonnet en particulier. Ce n'est que tout récemment, me rappelant cet épisode de ma vie, que je cherchais avec une espèce de passion le poème que j'avais entendu ce soir-là. Je fouillais les bibliothèques et finis par découvrir, glissé entre de nombreux autres, le fameux sonnet intitulé « Sonnet pour Marie ». À présent, chaque fois que je le lis pour moi, j'entends la voix tonnante de cet homme qui récitait dans l'auberge, et je ne sais pourquoi, ma main tremble d'émotion. Reçois mon cœur sous la forme de ces boutons, ils te témoignent de la force de ma passion. Hume ces roses qui te disent plus que leur parfum, et, si elles te déplaisent, jette-les au loin. Mais veille à ce qu'elles ne griffent ton sein. On ne saurait lequel, de ton sang ou du mien, leur prête cet éclat, à moins qu'ils ne fassent qu'un, et que, de nos deux sangs, naisse un nouveau brin. Hume ces roses qui te disent qui je suis, mon cœur reconnaissant est un soleil qui luit. La nuit, rose de la mort, le jour, rose de la vie. Et si tu les jettes, ne les jette pas trop loin, car si elles ne sont les roses d'aujourd'hui, peut-être sont-elles les roses de demain. Après une pause, durant laquelle les murs de la salle résonnèrent encore de ces vers, le lecteur assura qu'on y pouvait voir la marque du destin et la prescience du poète sur lui-même, puisqu'il avait su deviner l'imminence de son malheur. Un autre, hochant la tête en signe d'approbation, montra que les exemples n'étaient pas rares, en effet, de poètes qui avaient dicté leur conduite aux hommes qu'ils étaient, comme si, une fois le verbe posé, celui-ci travaillait ensuite à se faire chair. Cette interprétation rencontra la réprobation d'un troisième, qui, presque de colère, se leva de son siège. Il estimait au contraire que tous les hommes connaissent une destinée commune, qui obéit à des lois immuables, Qu'ainsi, celui qui entreprend de décrire sa propre condition ne fait en vérité que révéler aux autres hommes le lot également partagé par tous. Le dernier enfin, moins affirmatif, émit l'hypothèse d'un dieu qui trouverait son amusement à jouer des correspondances entre la vie et l'œuvre de l'artiste, et qui, comme s'il jetait des dés à la surface de la terre, se plairait à brouiller les chiffres, de façon à ce que les hommes soient perpétuellement obligés de s'interroger sur le sens de la vie et sur la raison du monde. Alors que la polémique faisait rage, j'arrêtai la femme qui faisait office de serveuse pour lui demander qui était ce poète dont il était question et quelle partie de sa vie ses vers mettaient en évidence. Comprenant comment j'avais pris connaissance de cette histoire, elle jugea sans doute ma requête indiscrète, car elle lança plusieurs œillades du côté de la table où s'animaient les quatre hommes. Elle accepta néanmoins de me renseigner. Mais elle me fit d'abord patienter, le temps, me dit-elle, de se libérer de ses dernières obligations. Puis elle revint vers moi et commença le récit suivant. Sur la côte vivait autrefois un homme que sa poésie avait rendu célèbre. Tous les habitants du pays connaissaient ses vers et les récitaient aux veillées, et parfois même aux messes en matière de cantique, car ils avaient la grâce et la douceur d'une parole extraite des évangiles. Mais ce succès n'avait point changé les manières de cet homme simple qui paraissait continuellement habité par ses songes. Il menait une vie austère, retiré dans une maison qui dominait la mer. Il y demeurait la majeure partie du temps, voyageant peu et ne sortant que lorsque ses affaires l'exigeaient, ou pour rendre ses visites régulières aux amis fidèles qu'il avait conservés depuis l'enfance. Sa vie pour le principal était faite, et il semblait ne plus rien devoir désirer, quand il fit, on ne sait comment, la connaissance d'une jeune fille du pays. Il semble que certains êtres sont doués d'un sens supérieur qui leur permettent de détecter la proximité d'un autre être dont ils sentent obscurément qu'ils sont faits exactement pour les combler, ou qu'ils détermineront de manière inéluctable leur sort à venir. La jeune fille n'était alors âgée que de 15 ou 16 ans. Nul, dit-on, ne vit jamais de créature aussi belle et aussi ensorcelante. Son visage était d'un ovale étroit, d'un équilibre parfait des traits. Il était couronné d'une superbe chevelure de la couleur des blés. On pouvait seulement déplorer la dureté de son regard et une sorte de crainte instinctive qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Elle avait perdu son père et sa mère et habitait chez sa tante qui possédait une demeure sur la côte, non loin de la villa du poète. La jeune fille sortait peu et jamais sans être accompagnée de sa parente. La tante assurait que sa nièce trouvait son bonheur à cultiver les nombreuses plantes qui peuplaient son jardin et qu'elle se passionnait le reste du temps à lire et à étudier les sciences. Le poète s'éprit follement de la jeune fille. Sans doute n'osa-t-il pas tout de suite lui déclarer sa flamme. Cependant, ses sentiments grandissaient, et sa poésie commença de se transformer. On ne reconnut plus le poète de jadis, celui dont la plume était portée par un souffle plein de douce sérénité et de force généreuse. Ses vers trahissaient maintenant une inquiétude fébrile, sonnaient comme une plainte douloureuse. Frappé de ce changement, d'avisés lecteurs devinèrent bientôt sa muse, et, peu scrupuleux de rendre grâce au poète, décidèrent de surveiller l'homme. Ils apprirent que la gloire de l'infortuné poète n'avait point impressionné l'orpheline et que celle-ci demeurait sourde à ses suppliques. Ils découvrirent ensuite que le poète faisait chaque jour le présent d'une rose à la jeune fille, qu'il lui adressait par porteur. Mais si elle acceptait d'en humer le parfum précieux, elle refusait toujours de lui ouvrir la porte de sa maison et celle de son cœur. Ils s'étonnèrent pourtant de ce comportement qu'elle ne réservait pas seulement au poète. Elle répudiait de même tous ses prétendants. On venait de loin, pourtant, dans l'espoir de l'approcher. Sa beauté, dont elle était avare, était en effet devenue légendaire. Beaucoup, sans l'avoir jamais vue, n'hésitaient pas à vanter ses qualités. Racontaient qu'une légère rougeur colorait ses joues pâles aussitôt qu'elle se savait l'objet de curiosité. Donnait l'emplacement d'un grain de beauté sur le cou, croyant par ce détail emporter la conviction de tous leurs détracteurs et finissant par se convaincre eux-mêmes de la véracité de leurs allégations. Il décrivait les lacets que formait sa chevelure et affirmait qu'un seul de ses cheveux détenait le pouvoir de guérir tous les maux du corps et d'endormir ceux de l'esprit, mais que quiconque la pouvait admirer était ensuite possédé du désir d'en revoir les reflets dorés. Mais un jour, la livraison de la rose journalière cessa. Le poète était mort. Sait-on pourquoi un être un jour disparaît et abandonne pour toujours cette terre sur laquelle sa place désormais semblait acquise? On pensa que, trop las de ses tourments, le poète avait épuisé ce qui lui restait de vie dans son chagrin. Il fut enterré dignement par une foule venue nombreuse lui rendre hommage, sous une pluie fine battue par le vent. Néanmoins, une absence fut remarquée. La jeune fille s'était en effet abstenue de se joindre au cortège. Alors, le lien qu'on avait cru pouvoir établir entre la mort du poète et l'orpheline se révéla à la lumière de ce triste événement, et de ce jour, on se mit à la fuir, ce qui ne fut pas bien difficile, car elle ne sortait pas plus qu'autrefois, mais nul désormais ne chercha plus à la voir. Et la vie dans cette partie de la contrée continua de s'écouler, plus morne encore et plus alanguie qu'avant, la morte saison succédant à la faible chaleur de l'été. Cependant, on ne cessa jamais d'honorer la mémoire du poète. Les gens du pays venaient régulièrement se recueillir sur sa tombe, prononçaient quelques-uns de ses vers en manière de prière, et effectuaient une toilette méthodique de la dalle avant de prendre congé du défunt. Mais bientôt, on remarqua un phénomène curieux. Sur la tombe du poète figurait chaque jour une rose nouvelle. On ne s'en étonna pas d'abord, car la stèle était constamment fleurie, mais l'aspect des fleurs surprenait. On n'en avait jamais vu de pareil dans le pays. D'une belle teinte d'un rouge brun, elle jetait un éclat pourpre dans ce coin de cimetière et exhalait un parfum pénétrant qui d'emblée saisissait la gorge. Comme elle ne périssait pas, on se demanda par quel sortilège elles conservaient leur parure première. On les crut douées de propriétés extraordinaires. Par une commune fascination, nul n'osait y toucher, et le nombre des roses croissant avec celui des jours, la tombe ne put bientôt contenir tant d'abondance. Les fleurs déversaient sur les côtés, le vent se prenait dans leurs tiges, emportait les boutons qui roulaient au travers des allées et allait fleurir les autres tombes. Or, la nouvelle se répandit que la santé de la jeune fille déclinait. La rumeur, toujours prompte à troubler les esprits, courut que le poète revenait toutes les nuits satisfaire à son funèbre office, retirant une à une des mains de l'orpheline les roses dont il avait lui-même fait le présent, et lui retranchant aussi, pour se venger d'elle, chaque fois un peu de sa vie. Cette année-là, des vents mauvais parcoururent le pays. La mer était montée. Toute la saison, il fut impossible d'empêcher les fruits. Des marins périrent, engloutis par les eaux, ce qui causa la ruine de plusieurs familles. Mais des cataclysmes formidables de la nature, la tombe du poète semblait étrangement préservée. Indifférent au soleil et à la pluie, celui-ci reposait sous le tas des roses qui grossissaient sous la poussée lente des jours, tachant d'un lavis sombre la pierre du sépulcre. Les mêmes qui louaient autrefois la valeur et la sagesse du poète virent maintenant dans ses vers de funestes allusions aux ténèbres qui semblaient, les derniers temps, former son lot. Ils découvrirent des invocations en direction des forces puissantes du mal et déclarèrent qu'elles avaient été inspirées par son infernale muse. On commença par retirer ces ouvrages qui figuraient jusqu'alors en bonne position dans les rayons des bibliothèques, sans distinguer entre les anciens et les derniers, car on les assimilait tous par une sorte de confusion superstitieuse et on procéda à leur holocauste. À peine osait-on désormais franchir la grille du cimetière, par crainte d'y rencontrer le diable en personne, ou quelqu'un de ses agents. On ne manquait jamais non plus de se signer à proximité de l'enceinte mortuaire. Enfin, le lieu, qu'on disait maudit, fut peu à peu totalement déserté. Une autre place fut ouverte aux morts, afin qu'ils puissent reposer en paix. Et le prêtre, pendant les messes, haussait le ton de sa voix, dans l'espoir d'être entendu du malin, et exhortait ses fidèles à se liguer contre sa désastreuse influence. Mais toutes les prières semblaient inutiles. La mère s'obstinait à commettre ses crimes envers les hommes du pays, répandait la tristesse et le chagrin dans la population. On souhaitait presque maintenant que la jeune fille mourût. On s'imaginait qu'elle emporterait avec elle le malheur qui s'était abattu sur tous ces innocents. L'intéressée sut-elle à quel sacrifice tous la vouaient en secret? Obéit-elle à un sombre appel du destin? Le fait est qu'un matin on perdit sa trace. Sa tante était montée chez elle, avait frappé à sa porte, mais n'avait recueilli nulle réponse. La partie de la maison que sa nièce occupait était condamnée. N'y pouvant pénétrer seule, elle alla chercher du secours. On appela à nouveau, pensant que la jeune fille s'était peut-être entre-temps réveillée, mais on n'obtint pas plus de réponse que la première fois. Aussi prit-on la résolution de forcer l'entrée de la chambre. Le bois de la porte craqua, et aussitôt une odeur forte se signala, qui n'était certes pas désagréable, mais qui se trouvait si concentrée qu'on fut pris de vertige dès l'abord. Les volets étaient restés ouverts, et, à la lumière, on remarqua sur le mur une succession de fleurs qui pendaient, la tête renversée vers le sol, seulement retenue par une fine cordelette attachée au mur. On reconnut les mêmes fleurs qui recouvraient la tombe du poète. Des marques sur la tapisserie indiquaient encore qu'il y en avait eu un très grand nombre suspendus dans cette position, qui avaient attendu depuis des mois, des années peut-être, de remplir leur dernier office, mais qui, par suite d'une lente déliquescence, avait chargé l'air de la chambre d'un poison puissant. Tous se dirigèrent naturellement leurs pas vers le cimetière. On ne tarda pas à y découvrir la jeune fille, qui gisait, morte, dans le parterre des roses qu'elle avait elle-même fournies, tenant à la main le recueil que le poète lui avait dédié. Jamais tableau n'émut peut-être davantage le cœur humain. Le corps de la jeune fille s'abandonnait sur son lit de regret, composé de roses séchées au milieu desquelles elle semblait simplement reposer, son visage baignant dans le flot de sa chevelure répandue, qui, captivant toute la lumière du lieu, paraissait en avoir bu la vie. La vieille femme avait interrompu là son récit. Sans attendre ma réaction, elle s'était empressée de rejoindre les quatre hommes que j'avais oubliés, qui s'étaient levés et s'apprêtaient à sortir. Seul, je demeurais muet sur ma chaise, placé sous l'impression de l'histoire que je venais d'entendre. Je demandai à ma conteuse où le poète et la jeune fille étaient enterrés, et s'il y avait moyen de me rendre dès le lendemain sur leur tombeau. Elle m'indiqua la route que je devais suivre et me décrivit très exactement l'endroit où je trouverais le cimetière. Le jour suivant, j'identifiai sans peine la tombe dans laquelle reposaient les deux amants. On les avait placés ensemble, comme pour apaiser la colère des éléments. On avait pris acte de la réconciliation du poète et de la jeune fille, et on les reconnaissait maintenant inséparables pour l'éternité. Je rentrai ensuite à l'auberge, mais je ne pus longtemps me dissimuler une certaine déception que j'éprouvais, et qu'on éprouve chaque fois qu'une histoire se finit, car elle précède l'oubli. Même la vie à laquelle est conférée l'intensité la plus grande ne repousse pas ses limites devant la mort, qui en permanence la guette, comme un monstre tapis, attendant le moment de l'ensevelir. À mon retour, la vieille femme me demanda si mon voyage s'était bien passé. Je lui fis signe que oui, sans lui donner de détails. Après le repas du soir, je la remerciai de son hospitalité, et me résolvant enfin au départ, lui donnai mon congé. Le lendemain, comme je m'apprêtais à partir, les cloches de l'église se mirent à sonner, et la femme vint encore pour me dire qu'une légende courait, à dater du jour où on était entré dans la chambre de l'orpheline. On avait eu en effet la curiosité de dénombrer des fleurs qui étaient restées accrochées au mur. On avait calculé que leur nombre formait tout juste celui des jours qui séparaient la découverte du corps sans vie de la jeune fille des prochaines Pâques. On y vit un signe. Depuis ce temps-là, il est de tradition que les amoureux du pays fassent un vœu lorsqu'ils entendent sonner les cloches de la fête pascale, dans l'espoir que le poète et sa muse consentiront à les exaucer.